VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, attaque armée dans la nuit de mardi à mercredi contre commissariat de police dans la région de Djibo, dans l'extrême nord du pays. Les combats ont opposé les forces de sécurité burkinabé à des assaillants lourdement armés. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
L'attaque a eu lieu à Koutougou, dans la province de Soum, une région aux frontières du Niger et du Mali. Une source sécuritaire jointe par VOA Afrique affirme que des renforts ont été envoyés dans la zone pour contrer ces assaillants, dont on ne connaît pas l'identité. La même source a indiqué ne pas savoir s'il s'agit des terroristes ou des bandits armés. Aucun bilan n'est encore disponible. Cette partie du Burkina est une zone de forte instabilité. C'est là qu'en mi-janvier, un couple australien, le docteur Kent Elliott et sa femme, avaient été enlevés précisément à Djibo, la grande ville de cette région. Madame Elliott avait été libérée quelques jours plus tard au Niger, mais Dr Kent est toujours entre les mains de ses ravisseurs, en l'occurrence des hommes de l'Émirat du Sahara, une branche d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, agissant dans le nord du Mali.
Conférence sur la Côte d'Ivoire à Paris en France. Les bailleurs de fonds se sont engagés à hauteur de 15 milliards de dollars pour soutenir le développement ivoirien d'ici à 2020. John Lyndon.
Le groupe consultatif sur la Côte d'Ivoire s'est réuni pour 2 jours à Paris pour tenter de financer le plan de développement ivoirien pour la période 2016-2020. À l'issue d'une première journée hier avec le premier ministre ivoirien, les institutions financières et les bailleurs de fonds ont promis 15,4 milliards de dollars sous forme de prêts ou de dons, soit près du double de ce que souhaitait Abidjan. Ce plan ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans 4 ans avec une croissance de l'ordre de 8,8% et pour objectif affiché la réduction de la pauvreté. Ce plan met l'accent sur l'amélioration de la transformation des matières premières agricoles et la diversification de l'appareil industriel avec la promotion d'une industrie manufacturière.
À une semaine du sommet mondial sur l'action humanitaire qui se tiendra en Turquie, le coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, Stephen O'Brien, est en tournée en Afrique de l'Ouest pour dresser un état des lieux de la crise humanitaire qui touche le bassin du lac Tchad. Le haut responsable onusien est ce mercredi au Nigeria, en provenance du Niger, où il s'est rendu dans la région de Difa, affectée depuis février 2015 par les attaques de la secte islamiste Boko Haram. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Razak.
Depuis bientôt une année qu'ils sont sur le site qui porte le nom de leur village, les plus de 6000 réfugiés nigériens du village d'Assaga déclarent se sentir en sécurité. Il reste cependant qu'il leur manque de la nourriture notamment. Bientôt, ils passeront leur 5e mois sans une ration suffisante.
C'est les 2 premiers mois là qu'on n'a pas eu de problème. Mais maintenant, vraiment, nous sommes confrontés à un problème d'alimentation. Et ce qu'ils nous donnent là, ça ne suffit pas à la ration de la famille.
Nous avons vraiment besoin de nourriture, surtout le problème de jusqu'à la nuit tard. Vous entendez les femmes au niveau des robinets en train de chercher de l'eau. Nous en appelons au Niger, au Nigeria, à l'Afrique, à toute la communauté de nous aider.
Aujourd'hui donc, plus que jamais, ces Nigériens qui ont fui les atrocités de la secte Boko Haram ont besoin de nourriture et même sur le plan sécuritaire, Kari Boukar, la 50aine sonnée, venue avec sa famille de plus de 15 membres, les larmes aux yeux, lance un appel au président Muhammadu Buhari.
Nous souhaitons que le président fasse plus d'efforts, qu'il amène les militaires autour de Damasak, autour de Malam Fatouri pour chercher ces jeunes qui sont là en train de fatiguer les gens, ils tuent les gens, ils prennent leur bétail. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait la paix pour que nous retournions à nous.
Avec ce qu'il a pu voir et entendre, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, pense avoir trouvé ainsi les bons arguments pour convaincre au sommet mondial sur l'action humanitaire prévu la semaine prochaine en Turquie. Stéphane Aubryan.
J'ai la vérité des histoires des peuples ici qui ont les besoins très importants et très immédiats. C'est très important d'avoir cette vérité pour créer les arguments les plus impressionnés avec les gens qui sont les chefs du monde, des chefs d'État, des chefs du gouvernement, des chefs des NGOs, des CSOs, tous les gens qui ont beaucoup d'influence pour gagner une nouvelle approche pour supporter les gens qui ont les besoins les plus immédiats.
À la date du 9 mai 2016, le nombre de réfugiés nigériens sur le territoire nigérien est estimé à plus de 82 000, auxquels s'ajoutent environ 130 000 déplacés internes et plus de 31 000 personnes retournées, n'a pas encore dépassé les 25 %. Abdelrazak Idrissa, de retour de Difa pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Cour pénale internationale de La Haye, la procureure de la CPI a requis ce mercredi au minimum 25 ans de prison contre l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, reconnu coupable le 21 mars de 5 chefs d'inculpation de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis par sa milice en 2002-2003 en Centrafrique. Verdict de culpabilité rendu au terme d'un procès ouvert en novembre 2010 et en vertu du principe de la responsabilité du commandant. Même si Jean-Pierre Bemba ne dirigeait pas personnellement ses troupes sur le terrain en RCA. Les juges décideront de la peine à une date ultérieure. Et puis l'ONU indique avoir recensé depuis le début de l'année 44 accusations d'abus sexuels qui auraient été commis par ces casques bleus, dont 29 concernant sa mission en République centrafricaine, MINUSCA. Parmi une série de mesures proposées pour mettre fin à cette situation, l'ONU a recommandé la création de cours martiales in situ, donc sur place, pour juger les coupables, et aussi de prendre les empreintes génétiques des casques bleus. Pour l'instant, seule l'Afrique du Sud a annoncé qu'elle allait mettre en place une cour martiale en RDC pour juger ses soldats. Par ailleurs, l'ONU a aussi créé en mars un fonds pour aider les victimes des abus sexuels. La Norvège a été le premier pays à y contribuer en versant 125 000 dollars. Au Tchad, le mouvement citoyen IINA, qui s'est donné pour mission de combattre l'injustice et la malgouvernance, a tenu une conférence de presse mardi à N'Djamena pour dénoncer l'arrestation d'un de ses membres à Mundu, dans le sud du pays. Timothée Donangmaya joint N'Djamena, le rapporteur du groupe Ganjay Solo Bertrand.
Les autorités judiciaires nous ont fait comprendre que l'étudiant était pris en flagrant délit dans ces manifestations et qui sont deux, donc il faut que la justice fasse son travail. Mais ce que nous ne comprenons pas, comment un étudiant qui n'est pas l'organisateur d'un mouvement puisse se retrouver dans leur collimateur. Nous, simplement, c'est un règlement de compte. Parce que les membres de l'INA étaient déjà traqués par le service de renseignement et par plusieurs fois, ils l'ont appelé pour l'intimider. Donc, nous ne comprenons pas leur motif.
Ganjay Solo Bertrand, rapporteur du mouvement citoyen IINA, joint à N'Djamena. En Libye, Human Rights Watch accuse le groupe djihadiste État islamique d'avoir procédé à au moins 49 exécutions extrajudiciaires à Sirte, son bastion dans le pays, en soulignant que ces meurtres constituent des crimes de guerre. Plus des deux tiers des 80 000 habitants de la ville ont fui après l'arrivée de l'État islamique, selon le rapport de l'Organisation de défense des droits humains basée à New York.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Organisation mondiale de la santé a annoncé la tenue d'une réunion de son comité d'urgence demain 19 mai sur la fièvre jaune en Afrique qui a fait près de 300 morts depuis fin décembre. Plus de détails avec Michel Joseph.
Des experts vont examiner la situation et faire des recommandations. Ce comité pourra aussi décider si l'épidémie de fièvre jaune est une urgence de santé publique, comme pour Ebola ou Zika. Depuis fin décembre, 293 décès ont été signalés en Angola, de même que 696 cas confirmés et 2267 cas suspects. Luanda reste l'épicentre de l'épidémie. La République démocratique du Congo voisine compte 41 cas confirmés, dont deux locaux et le reste importés. L'Ouganda a détecté 7 cas confirmés et, selon l'OMS, 2 cas importés au Kenya et 11 en Chine.
Campagne électorale aux États-Unis, la candidate démocrate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton, a obtenu une victoire de justesse hier à la primaire du Kentucky. Mais son rival, Bernie Sanders, victorieux dans l'Oregon, a promis de rester dans la course à l'investiture jusqu'à la fin de la saison des primaires. Les républicains, eux, ont voté seulement dans l'Oregon, y plébiscitant sans surprise Donald Trump, le seul candidat encore en course, bien que les noms de ses ex-rivaux soient restés sur les bulletins de vote. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.